juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1.
Pierre de Villeneau.
Le spécialiste des questions internationales, David Rigolero, sera mon invité de Europe 1 soir, juste après votre journal. Bonsoir, Maël Hassani.
Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous.
Il est 20h sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h-21h. Pierre de Villeneau.
Au sommaire, quatrième jour de guerre entre l'Iran et Israël.
Près de 250 morts dans les deux pays depuis jeudi dernier. Un bombardement israélien mené aujourd'hui sur le siège de la télévision d'État iranienne. Les États-Unis appellent Téhéran à négocier avant qu'il ne soit trop tard. Un conflit qui s'invite au cœur du sommet du G7 au Canada. Dans ce contexte, les industriels israéliens de l'armement sont pris pour cible par le gouvernement français. Les stands exposant des armes offensives au salon du Bourget interdits d'accès. Le Premier ministre français François Bayrou assume sa volonté de prendre ses distances avec les opérations israéliennes à Gaza. Dans ce journal également, les députés macronistes qui se mettent d'accord pour voter contre le projet de loi qui prévoit notamment de supprimer les ZFE.
La tendance météo, Marlène Duret.
Alors, du temps chaud et ensoleillé demain, avec simplement quelques plaques de grisaille possibles près des côtes de la Manche et une petite averse en montagne dans les Alpes du Sud.
À tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Ce que vous entendez, c'est un bombardement israélien sur le bâtiment de la télé d'État iranienne.
Explosion captée en direct. Sur les images, on voit une présentatrice contrainte de quitter le plateau sous une pluie de débris. Les programmes ont pu reprendre quelques minutes plus tard, mais vous l'avez compris, Israël et l'Iran échangent des tirs pour le quatrième jour de suite. Les derniers bilans font état d'au moins 224 morts côté iranien, 24 côté israélien depuis jeudi dernier. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'exclut pas ce soir d'éliminer le guide suprême iranien Ali Khamenei.
Et ce conflit entre Israël et l'Iran s'invite forcément au cœur du sommet du G7.
Les dirigeants des sept principales puissances mondiales sont réunis en ce moment au Canada. Parmi les objectifs des discussions, s'accorder sur une position commune face aux échanges de tirs entre l'État hébreu et Téhéran. Donald Trump appelle ce soir l'Iran à négocier avant qu'il ne soit trop tard. Emmanuel Macron participe également au sommet, mais le président de la République semble condamné à jouer les seconds rôles dans ce dossier, Jacques Serret.
Emmanuel Macron espère que ce G7 va faire bouger les lignes.
Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent.
Mais en dehors de ces multiples échanges téléphoniques...
Et j'ai pu m'exprimer et échanger avec le Premier ministre Netanyahou, le président Pezeshkian, président iranien hier, et le président Trump.
Le président s'en remet à la puissance américaine.
Les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table, compte tenu du fait que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier.
Tout en prenant ses distances avec Donald Trump, ouvert à une médiation menée par Vladimir Poutine.
Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, puisse être en quoi que ce soit un médiateur.
Une divergence qui est loin d'être la seule. Ces dernières semaines, la Maison-Blanche n'a pas du tout apprécié la volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine.
Jacques Serret, et pour François Bayrou, Israël est en droit de se défendre quand, je cite, son existence est menacée. La menace iranienne sur l'État hébreu est immédiate et vitale, estime encore le Premier ministre.
François Bayrou qui justifie dans le même temps la fermeture de stands israéliens au Salon du Bourget à Paris.
La situation à Gaza, moralement inacceptable, impose de marquer réprobation et distance avec les industriels de l'armement israélien, déclare le Premier ministre. Au premier jour du plus grand salon de l'aéronautique et de la défense au monde, les stands exposant des armes offensives sont interdits d'accès. C'est une décision du gouvernement. Et le président israélien Isaac Herzog réagit vivement aujourd'hui.
Nous étions choqués de voir ce matin que les pavillons israéliens étaient verrouillés pour qu'il n'y ait pas d'accès. Les entreprises israéliennes ont signé des contrats avec les organisateurs du Bourget. Ils ont payé pour être présents. C'est comme créer un ghetto israélien, de ne pas permettre aux entreprises israéliennes de montrer leur contribution à la défense du monde. Et je pense que c'est un scandale et que ça doit être corrigé immédiatement par les organisateurs du Bourget.
Le président israélien Isaac Herzog, invité de LCI aujourd'hui. Et malgré cette polémique, le Bourget reste le lieu incontournable des grandes annonces commerciales pour les avionneurs. D'habitude, la concurrence est féroce entre l'européen Airbus et l'américain Boeing, mais pas cette année. Aurélien Fleureau, quelques jours après le crash d'un avion d'Air India, les dirigeants de Boeing sont absents et pour l'instant, c'est Airbus qui rafle la mise.
Oui, aujourd'hui, c'était profil bas hein, côté Boeing. Pas d'annonce de commande alors qu'Airbus a pu démarrer fort dès ce matin. 40 appareils minimum pour le loueur Avilis, basé en Arabie Saoudite. Encore 40 à 220 de la part de la compagnie nationale polonaise LOT. Et une très grosse commande pour le géant de la gamme, l'A350, 25 avions par la très active compagnie Riyad Air. Jérôme Bouchard, spécialiste aéronautique au cabinet Oliver Wyman.
Le salon du Bourget sera teinté davantage Airbus que Boeing. Les premières prises de commandes le démontrent, que ce soit pour la 350 ou pour la 220. Riyad Air, c'est la compagnie aérienne qu'on voit aujourd'hui à l'ouverture de ce salon. Ils sont partout, on voit le mauve qui est leur couleur sur les stands, sur les avions. Ils font une énorme percée pour une compagnie qui se lance dans le Golfe arabique.
Alors ce n'est que le début, Boeing aura des annonces dans la semaine, mais pour l'instant, on peut le dire, il n'y a pas photo.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Le dispositif MaPrimeRénov', finalement en partie maintenu. Le guichet restera ouvert pour les monogestes, comme la pose d'une chaudière ou de fenêtre par exemple. Seule la prise en charge des rénovations énergétiques globales sera donc gelée entre le 1er juillet et le 15 septembre prochain. Le gouvernement assure vouloir profiter de cette pause pour détecter les dossiers frauduleux. À la veille de la fin du conclave sur les retraites, François Bayrou abat une dernière carte. Le Premier ministre propose aux partenaires sociaux la mise en place d'une prime pour les salariés seniors. L'idée étant de verser une partie de la retraite en plus du salaire aux personnes qui feraient le choix de rester au travail. À moins de 24 heures de la dernière réunion entre syndicats et patronat, aucun accord ne semble se dessiner pour améliorer la réforme de 2023.
L'Assemblée nationale doit se prononcer demain sur le projet de loi dit de simplification.
Un texte porté initialement par Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre, mais largement modifié depuis. Il prévoit désormais la suppression des zones à faible émission, mais aussi un allègement du ZAN, le zéro artificialisation nette, pour lutter contre la bétonisation des sols. Alors face à de tels changements, Arthur Delaborde, les élus macronistes ont tranché, ils voteront contre le projet de loi.
Signal politique autant qu'aveu d'impuissance en renonçant à voter ce texte de simplification. Les macronistes tentent d'enrayer ce qu'ils voient comme une dérive, un projet devenu à leurs yeux un cheval de Troie contre l'environnement. Le point de rupture, un amendement supprimant les zones à faible émission, adopté grâce à l'alliance des voix des LR, du RN et de LFI. Trop c'est trop pour les fidèles de Gabriel Attal, d'autant que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols a lui aussi été affaibli. Résultat, le camp présidentiel fait bloc contre un texte pourtant soutenu par leur chef de file lorsqu'il était à Matignon, à l'origine pour répondre à la colère des agriculteurs. Le texte devrait donc être rejeté aujourd'hui avant un retour en commission mixte paritaire avec un rapport de force défavorable aux macronistes. Et si la suppression des ZFE était maintenue, il ne leur resterait qu'un dernier recours, le Conseil constitutionnel, pour tenter de sauver la face et ce qu'il reste de leur bilan écologique.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Une nouvelle illustration des tensions à gauche, deux jours après les déclarations du député socialiste Jérôme Guedj, qualifiant Jean-Luc Mélenchon, je cite, de salopard antisémite, des tags injurieux retrouvés aujourd'hui sur la devanture du siège de la Fédération du PS à Marseille. Les mots partitionniste et PS traître à vie ont été notamment inscrits. C'est confirmé, le patron de Renault va se reconvertir dans le luxe. Le groupe Kering officialise ce soir l'arrivée de Luca De Meo dès le 15 septembre prochain. Le dirigeant italien va endosser le costume de directeur général et l'actuel PDG François-Henri Pinault restera à son poste. Luca De Meo sera donc resté 5 ans à la tête de la marque aux losanges. Et puis plus de 10 000 signalements effectués auprès du site spécialisé Down Detector. Plusieurs abonnés SFR subissent une panne de réseau internet et téléphonique depuis la mi-journée. L'opérateur parle d'un incident technique et espère un retour à la normale au cours de la soirée. Cette panne touche les clients de manière aléatoire, précise SFR.
Merci Maëlle. La Sani, la météo, Marlène Duret, journée estivale demain avec des températures en hausse.
Oui, ce sera le gimmick de la semaine. Ça s'explique par un blocage en oméga, comme la lettre de l'alphabet grec, hein, avec cette forme de fer à cheval. Ça visualise bien l'anticyclone sur la France et cette configuration fait office de bouclier contre les gouttes froides et les masses d'air frais, donc du soleil généreux pour tout le monde. Quelques nuages de beau temps attendus demain après-midi seulement au nord de la Seine et du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Seul le bord de Manche pourrait être contrarié par un petit peu de grisaille très localement. Et ces températures demain après-midi afficheront 29 à 31 degrés en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, en Vallée du Rhône et généralement en Provence, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Un cran en dessous, 25 à 28 pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, entre le Sud-Bretagne et les Hauts-de-France. Il fera plus frais le long des côtes de la Manche, 19 à 22. Et pour les valeurs les plus élevées, eh bien on devrait les enregistrer dans le Languedoc-Roussillon avec des pointes à 33 ou 34 degrés.
Merci Marlène Duret. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir est David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Où en est-on de la destruction des sites stratégiques de l'Iran? La bombe américaine censée creuser dans le sol est-elle adaptée à ce conflit? Est-ce qu'elle prendra part? Et surtout, quelle situation est-ce que Israël a la ferme intention de mener à bien et de mettre à terre le régime des Mollahs? Toutes ces questions, on lui pose dans un instant d'Europe 1 Soir.
La sixième édition du prix littéraire Europe 1 GMF a récompensé Le Lit Clos de Sophie Broca. Un livre parfaitement en phase avec les valeurs humanistes défendues par le prix.
L'écoute, l'attention, la bienveillance, la solidarité. Là, je pense que c'est ce qui met en lumière la plus belle part de notre humanité. C'est des valeurs qu'il faut qu'on cultive. Je suis du coup encore plus honorée que ce soit ces valeurs-là qui soient exaltées dans ce prix.
Le Lit Clos de Sophie Broca, lauréate 2025 du prix littéraire Europe 1 GMF. Disponible dès maintenant en librairie.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
L'héritage Goldman revient. L'aventure continue pour un nouveau voyage musical. Un show explosif pour redécouvrir les tubes cultes de Jean-Jacques Goldman et ceux qu'il a écrits pour les grandes voix de la chanson française. L'Héritage Goldman 2, une tournée événement à ne pas manquer à partir du 17 septembre avec Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe, quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison ?
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, le journal permanent.
20h12 sur Europe 1, l'Iran promet de continuer à frapper Israël jusqu'à l'arrêt des attaques. C'est le ministre israélien des Affaires étrangères qui l'affirme au quatrième jour de ce conflit inédit. Benjamin Netanyahou n'exclut pas d'éliminer le guide suprême iranien Ali Khamenei. Les échanges de tirs se poursuivent entre les deux pays. Une frappe israélienne sur le bâtiment de la télévision d'État iranienne aujourd'hui, scène diffusée en direct. La situation dans la bande de Gaza, moralement inacceptable, impose de marquer réprobation et distance. La justification de François Bayrou après la fermeture de plusieurs stand d'industriels israéliens de l'armement au salon du Bourget qui débute aujourd'hui. Selon le Premier ministre, la France refuse de voir des armes offensives exposées au cours de l'événement parisien pendant ce conflit. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau saisit la justice après les propos de l'imam de Massy contre Gabriel Attal. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le religieux menace de lancer une fatwa à l'encontre de l'ancien Premier ministre en cause sa volonté d'interdire le port du voile pour les fillettes de moins de 15 ans. Le gouvernement sur la suspension de MaPrimeRénov, le guichet restera finalement ouvert après le 1er juillet pour les travaux isolés de rénovation comme la pose d'une chaudière ou de fenêtres notamment. Le gel du dispositif ne concernera finalement que les rénovations énergétiques globales.
Europe 1 Soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Autour de cette table pour la deuxième heure, Mathieu Bocoté, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste, chroniqueur politique, bonsoir à Philippe Guibert.
Bonsoir Pierre.
Chroniqueur politique, et nous sommes avec le chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur aussi à associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonsoir David Rigoulet-Rose.
Bonsoir.
Ma première question, elle est, technique. Où est-ce qu'on en est de la destruction des sites stratégiques iraniens, c'est-à-dire les sites nucléaires? Est-ce qu'on sait à quel point l'armée israélienne a avancé sur ce point-là?
Ah, c'est très difficile, il faut demeurer très prudent parce que on n'a pas suffisamment de recul pour ce qu'on sait, c'est que les sites ont été visés. Notamment il y a trois sites principaux en fait, il y a Natanz, Fordo qui est le vrai grand site et puis Ispahan. Donc pour ce qui est d'Ispahan et de Natanz notamment, oui, il y a eu des dégâts importants et notamment il semblerait alors notamment en surface à Natanz. Tout ce qui était le système électrique qui permettait d'alimenter les 14 000 centrifugeuses en sous-sol aurait été très endommagé, ça aurait impacté le fonctionnement des centrifugeuses. Et puis, en surface, vous aviez des quatre bâtiments, en fait, dont une usine de conversion d'uranium en surface et de fabrication des plaques de combustible. Donc, tout ça, ça a été rasé. Mmh.
Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas les reconstruire dans un temps court, en tout cas.
Ah non, voilà. Et puis ça coûte cher. Donc,
ouais. Oui, ça prend des années.
Oui, alors ça dépend.
Des mois ou des années.
Ça dépend de l'énergie et de l'argent qu'on met pour ça. Mais en tout cas, donc il y a eu des gros dégâts sur effectivement le site de Natanz, manifestement, également sur le site d'Ispahan. La vraie question, en fait, c'est sur le site de Fordo parce que c'est celui qui est le plus en profondeur. Mmh. Il semble alors il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux l'évocation d'un séisme de 2,4 sur l'échelle de Richter à proximité de Com, enfin où se trouve le site de Fordo, dont on n'a pas d'éléments explicatifs pour l'instant, donc il faut se garder.
Ça évolue de runner, hein, cette situation.
Oui, mais il semblerait qu'il y ait eu des frappes sur Fordo, mais de toute façon, le problème de Fordo, il demeure, c'est la profondeur du site.
Et c'est pour ça qu'on utilise, ou en tout cas qu'il y ait cette éventualité de cette bombe américaine qui creuse en profondeur.
Oui, alors c'est la fameuse GBU 57, la MOB, qui est une bombe à forte pénétration qui peut descendre autour de 60 mètres. Mais il se trouve que ce site-là est probablement plus en profondeur encore. Mmh. Et de toute façon, les Israéliens n'en disposent pas. Mmh. Ce sont des bombes dont on dispose seulement...
Il faudrait un appui américain et donc
c'est incontestable, à la fois pour la munition elle-même et pour le vecteur, puisqu'il n'y a que deux types d'avions qui peuvent la porter, c'est le B-52 et le B-2 américain, qui sont d'ailleurs prépositionnés sur l'île de... du sud, qui servait de hub dans l'océan Indien, qui servait de hub justement pour bombarder préalablement le Yémen. C'est Diego Garcia, la grande base britannique, mais en fait qui sert aux Américains, qui a servi lors de la guerre en Afghanistan en 2001, en octobre 2001, et lors de l'invasion de l'Irak en 2003. Voilà. Donc c'est là qu'est prépositionné ce type de d'avions qui sont évidemment
Donc pour l'heure, David Rigoulet-Rose, les Iraniens ont une capacité de répondre et ils ont une capacité de répondre avec une arme nucléaire ou pas.
Ah non, ils n'ont pas d'arme nucléaire. Bien sûr que non. En revanche, évidemment, ils sont parvenus à un niveau d'enrichissement qui fait l'objet de toutes les préoccupations, qui a été stigmatisé par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré le processus d'enrichissement à 60%, qui les rapproche très près du niveau requis pour une matière nucléaire à 90%. Ils auraient aujourd'hui 400 kilos. C'est théoriquement la possibilité d'enrichir à 90%, de faire une dizaine de bombes. Mais attention, quand on dit de faire une dizaine de bombes, c'est pas une fois qu'on a l'enrichissement à 90%, c'est pas ça qui fait la bombe. Après, il y a deux autres étapes. D'abord, ça c'est la donnée technique. La vraie étape, c'est la militarisation et la miniaturisation d'un engin. Ça, c'est une décision non pas technique, mais politique. Et donc, entre le moment où vous avez le stock disponible et la fabrication de l'engin, il y a encore un délai, évidemment. Mmh. Simplement, les Israéliens ont considéré, à tort ou à raison, qu'on approchait la ligne rouge et que c'était trop dangereux d'attendre cette possibilité de passage du Rubicon par Téhéran. D'autant plus que pour la bombe, si une bombe devait y avoir, s'il y avait une décision qui pouvait être prise, ce qui semble-t-il n'a pas été le cas jusqu'à présent, il y a des progrès spectaculaires dans le balistique. Or, le balistique, c'est la vectorisation d'un engin potentiel, qui pour l'instant n'existe pas en tant que tel. Mais on va dire que le début et la fin, les deux pièces du puzzle sont établies. Et donc ne reste que cette partie centrale qui est la décision politique et non plus technique d'éventuel d'utiliser cet uranium enrichi pour fabriquer un engin.
Mathieu Bocoté.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas toujours une part de brouillard lorsqu'on cherche à comprendre ce qui se passe exactement en Iran ? Alors, je donne deux exemples, et pour la bombe, et pour la médecine du régime. Moi, je vais me dire, depuis que j'ai 20 ans, j'ai l'impression que le régime va s'effondrer dans 6 mois. Et depuis plusieurs années, j'ai l'impression aussi, mais attends, que l'Iran va avoir la bombe dans 6 mois ou dans 3 ans. Donc, qu'est-ce qui fait que cette fois-là, on a l'impression que c'était à ce point, par exemple, l'idée qu'Israël pourrait un jour frapper ? Ça traînait dans le débat public depuis longtemps.
Ça fait 20 ans.
Voilà, donc qu'est-ce qui fait que cette fois-là, c'était à ce point, l'hypothèse, c'était à ce point concrétisé qu'il fallait frapper maintenant ?
Alors, du point de vue israélien, après le 7 octobre, il y a l'idée qu'il y a une fenêtre d'opportunité non pas annihiler totalement, parce qu'ils savent que c'est pas possible, en réalité, parce que c'est indissociable d'autres éléments, le programme, mais en tout cas de le retarder beaucoup plus qu'ils n'ont pu le faire jusqu'à présent par des opérations type Stuxnet, virus informatique, opérations spéciales, etc. Justement parce que il y avait, dans le cas du processus d'enrichissement accéléré, qui, il faut le dire, était imputable à la sortie unilatérale de Donald Trump, hein, puisque il a renié le JCPOA, et du point de vue de Téhéran, ça a légitimé finalement la reprise de l'enrichissement à grande échelle entre 2019 et aujourd'hui, pour parvenir effectivement à être un État, ce qu'on appelle du seuil, disposant de la maîtrise complète de la filière de l'enrichissement. Et ça, c'est un acquis. Et on ne reviendra pas sur cet acquis, tout simplement parce que c'est une matière grise. Ce sont des ingénieurs sur 20 ans, des techniciens, etc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Israéliens ont fait une élimination ciblée d'une dizaine de scientifiques de très très haut niveau. C'est le haut du spectre, en fait, de la structure technique, technologique, intellectuelle du pays. Parce que, justement, ils savent très bien qu'on ne revient pas sur cet acquis. Ce qui prend c'est une formation des personnes, etc. Il y a une culture scientifique très très importante en Iran, qui a été d'ailleurs qui s'est traduite justement par ces progrès.
Philippe Guilherme,
justement au regard de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Israël a les moyens d'abîmer, de retarder la démarche nucléaire de l'Iran, mais pas de la remettre complètement en cause. Comment vous analysez les buts de guerre? Les buts politiques de guerre du gouvernement israélien, avec une déclaration de Benjamin Netanyahou cet après-midi sur « Je n'exclus pas, nous n'excluons pas de tuer le guide iranien ».
L'Ayatollah Ali Khamenei.
Est-ce que la logique finalement des Israéliens n'est pas de pousser au renversement du régime, tout simplement, et pour le dire franchement, avec toutes les incertitudes ou les risques que ça, ou les chances que ça peut comporter?
Réponse de David Rigolero.
Vraie question qui est tout à fait pertinente, parce qu'en réalité, quand on regarde les débuts de l'opération, c'est-à-dire que le président Donald Trump avait initié des négociations, et il avait dit de manière très explicite que lui, à titre personnel, n'était pas dans une logique de changement de régime, qui tendait la main, entre guillemets, aux Iraniens, en considérant qu'il y avait un problème à régler, mais que, contrairement à ses prédécesseurs comme George Bush avec l'Irak, il n'était pas dans cette démarche. Et on peut penser que c'était effectivement le cas. Et puis, il se trouve que donc il initie un processus auquel ne croyaient pas les Israéliens, qui lui ont fait savoir, qui ont essayé un peu de lui forcer la main d'ailleurs, et qui ont profité probablement d'une opportunité pour lancer l'opération militaire, parce qu'ils considéraient que, non sans raison, pour partie, mais pour partie seulement, il y avait une logique dilatoire de la part des Iraniens, qui eux, en tout cas, étaient très clairs sur une ligne rouge: on ne négociera pas le démantèlement de la filière nucléaire iranienne. Parce que c'est permis par le TNP, le traité de non-prolifération, etc. Mais la logique des événements, puisque pour aller dans votre sens, la logique des événements semble dessiner une perspective de régime change. Clairement, avec tous les attendus très très incertains que ça peut susciter, et ce qui corroborerait ça, ce sont certaines déclarations d'appel à l'insurrection de la population contre leur propre gouvernement.
Justement, si je me permets, puisque les dépêches tombent à l'instant, ce sont des déclarations de Benjamin Netanyahou. Il dit deux choses. La première, il dit « Nous éliminons un par un les membres du haut commandement militaire iranien ». Et la deuxième chose, il vient de déclarer « Nous changeons la face du Moyen-Orient ».
Oui, mais ça fait écho à la déclaration qui avait été à l'époque sous-évaluée le 9 octobre, deux jours après le 7 octobre. Il a dit « Nous allons changer le Moyen-Orient ».
Bon, ben ça continue. Mathieu Bocoté,
c'est alors, en cours. Vous avez évoqué la question du régime change, c'est-à-dire cette idée qu'on va déstabiliser, enfin, on va changer de régime dans un pays, et on va normalement, on fait un régime allié, potentiellement de démocratie. Jusqu'ici, ça a plutôt échoué quand même. Depuis une trentaine d'années, c'est pas une grande réussite, les opérations de changement de régime, c'est une espèce de wilsonisme botté à l'américaine. Est-ce que, paradoxalement, l'Iran n'est pas le pays où ça pourrait fonctionner, dans la mesure où il y a une vraie culture nationale, il y a une civilisation qui se déploie sur plus d'un millénaire? Est-ce que l'Iran, si un pays dans tout cet environnement peut potentiellement, et je le dis avec tout le scepticisme qui vient, peut potentiellement changer, est-ce que ce serait pas l'Iran potentiellement?
Ben, c'est un pari très dangereux.
Ah, vous aurez compris, j'ai multiplié les points d'interrogation. Ouais. J'essaie de comprendre ceux qui se disent pourquoi cette fois-là ça fonctionnerait.
Parce que c'est une obsession qui peut se comprendre du point de vue israélien, mais c'est un pari très dangereux pour deux raisons. Parce que on a vu les précédents qui étaient pas forcément des réussites. Et d'ailleurs, ça explique la prudence des Américains.
Eux, ils ont enregistré les faits, je crois.
Justement. Et la prudence de Donald Trump, qui n'était pas dans cette logique-là. Non, parce qu'il y a le syndrome de 2003 avec l'Irak. Et donc, il se trouve. Pourquoi c'est un pari dangereux? Parce qu'il y a deux éléments qui ne plaident pas dans ce sens. Le premier, c'est que l'effondrement brutal du régime actuel, que tout le monde pourrait évidemment attendre favorablement avec l'espoir d'une démocratisation, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opposition structurée, constituée. Aujourd'hui, il y a une opposition au régime, une défiance de la majorité de la population, mais pas d'opposition.
Il n'y a pas de lutte de remplacement.
Non. Ah, et c'est un problème majeur dans le cas d'un effondrement brutal où vous avez une transition effectuée, où il n'y a pas de substitut, justement, qui pourrait organiser et empêcher le chaos, dont le risque est avéré parce que vous avez, dans le cas de l'Iran, qui est un immense pays de 88 millions d'habitants, qui est un pays trimillénaire, de grande culture, mais qui a toujours eu des périphéries parfois tumultueuses. Justement, et avec une logique centripète historique, justement, du plateau iranien par rapport à ces périphéries, qui sont le Baloutchistan, à proximité du Pakistan qui a la bombe, qui sont les Kurdes au nord-ouest, qui sont la minorité azérie qui jouxte une république d'Azerbaïdjan ennemie de Téhéran et qui a une région, le Khouzistan, peuplée d'Arabes. Donc, le problème, c'est que l'effondrement brutal d'un régime, si elle paraît souhaitable à bien des égards, paraît aussi également être un calcul dangereux par les logiques centrifuges que ça pourrait initier.
Mais si je vous comprends bien, est-ce que vous diriez que finalement, le néoconservatisme version 2003 survit peut-être aujourd'hui dans l'esprit de M. Netanyahou?
Il avait approuvé l'opération.
C'est possible. 2003, hein. On pourrait voir les David choses comme Rigoulet ça. Rose. D'ailleurs, il assume, d'une certaine manière, la logique du changement de régime en disant que ce serait le renversement d'un régime cruel et despotique, non sans raison, qui libérerait la population, soit, mais avec tout, évidemment, toutes les questions qui surgiraient immanquablement à ce moment-là.
Merci beaucoup David Rigoulet-Rose de nous avoir apporté vos précisions, votre savoir sur ces questions qui sont encore une fois très difficiles, très compliquées et surtout qui, évoluent d'heure en heure. Je vous signale qu'au cœur de l'histoire, c'est présenté par Stéphane Bern tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 et demain, mardi 17 juin, Hélène Deporte et Marie-Louise de Crussol. Voilà donc les deux figures dont va parler Stéphane, deux femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940. À tout de suite dans Europe Soir. Bonjour, c'est Pascal Praud, je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Praud et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Oui, bonjour Pascal.
Ils nous ont déclaré la guerre.
C'est insupportable d'entendre un discours pareil où on se voile la face et on ne fait rien.
C'est un plaisir de vous avoir et surtout un plaisir de vous écouter.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Praud et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
À l'écoute des pros avec Citroën. Choisir le bon véhicule utilitaire, c'est essentiel pour un professionnel. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artisan électricien et vous avez choisi le Citroën Iberlingo Van électrique. Alors pourquoi ce choix?
C'est simple, il coche toutes les cases. Je travaille surtout en ville.
Et avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 337 km, ça couvre largement mes besoins quotidiens.
D'accord.
Et aussi, j'ai pu aménager l'intérieur avec l'offre Custom Fit, un service de personnalisation sur mesure pour pouvoir ranger mes outils exactement comme je souhaite.
Et c'était pas trop compliqué de passer à l'électrique ?
J'ai un peu hésité.
Oui.
Mais après, j'ai pu tester le véhicule avec une offre d'essai longue durée. Mm-hmm. Ça m'a permis de vérifier que ça correspondait vraiment à mes besoins.
Et comment avez-vous été accompagné par Citroën ?
J'ai été me renseigner dans un point de vente Citroën près de chez moi. Les conseillers étaient vraiment à l'écoute. Ils connaissaient parfaitement les contraintes, ils m'ont guidé sur tout, choix du véhicule, personnalisation, financement, un vrai accompagnement du début à la fin.
Merci Alexandre.
Merci.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur citroën.fr.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. Mon fameux plat maison vient de chez le traiteur. Je leur fais croire que je deviens sourde pour qu'ils arrêtent de me demander des choses. Et non, le chat n'est jamais parti en vacances.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors, rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
Europe 1, le journal permanent.
20h30, Maël Hassani.
Éliminer le guide suprême iranien pourrait mettre fin au conflit. Déclaration ce soir du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui assure que son armée est en train de tuer un par un les membres du haut commandement militaire iranien. Cela fait 4 jours qu'Israël échange des tirs avec l'Iran, près de 250 morts des deux côtés. L'image forte du jour dans le cadre de ce conflit, c'est ce bombardement israélien sur le bâtiment de la télévision d'État iranienne. Une frappe captée en direct, la présentatrice contrainte de fuir son plateau sous une pluie de débris. Ce soir, de nombreux habitants de Téhéran tentent de fuir leur ville, des embouteillages monstres sur la route qui mène vers le nord de l'Iran. Je suis atterré par le fond et la forme. La réaction de la députée Renaissance des Français établie en Israël, Caroline Yadan, invitée d'Europe 1 Soir. L'élu s'insurge face à la décision du gouvernement d'interdire l'accès à plusieurs stands d'industriels israéliens de l'armement au Salon du Bourget. Le Premier ministre François Bayrou justifie ce choix par une volonté de prendre ses distances avec les opérations militaires à Gaza. Une partie des services déjà rétablis et un retour complet à la normale espéré au cours de la soirée. SFR victime d'une panne d'envergure. Aujourd'hui, le réseau téléphonique et Internet indisponible depuis la mi-journée pour de nombreux clients. Plus de 10 000 signalements effectués auprès du site spécialisé Down Detector. Et puis Kering officialise l'arrivée de Luca De Meo au poste de directeur général. L'actuel patron de Renault va donc se reconvertir dans le luxe après 5 années à la tête de la marque aux losanges.
Merci Maël Hassani, à tout à l'heure.
Europe 1 Soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Toujours avec Philippe Guibert et Mathieu Bock-Côté. Et pour parler de la situation de l'Iran et d'Israël, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est pas tout jeune. C'est en 2012 et voilà ce que disait Jean-Luc Mélenchon en 2012 à propos du régime iranien.
Ce n'est pas acceptable. Mais d'un autre côté, il faut aussi entendre quelque chose. Ce qu'a dit M. Ahmadinejad n'est pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays, pourtant il y en a des pays qui sont en tension entre eux, et certains armés de l'arme nucléaire, comme c'est le cas pour le Pakistan et l'Inde. Mais à aucun moment le Pakistan ou l'Inde ne se sont armés en disant « j'ai l'intention de détruire mon voisin ». Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire « si on a une bombe, on ira taper sur Israël ». Ça, personne ne peut accepter une chose pareille que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire et à coup de bombe atomique son voisin. Qui plus est, comme nous sommes dans le sens du vent, ça serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire.
Hein. 2012, plus maintenant, j'ai l'impression, Mathieu Bock-Côté.
Bah, elle a changé beaucoup d'idées sur beaucoup de questions, Monsieur Mélenchon. Mais cela dit, on voit, alors, pardonnez-moi, on voit une forme d'oubli de la nature du régime iranien. C'est-à-dire, c'est un régime révolutionnaire. D'abord et avant tout, c'est un régime idéologique. C'est un régime avec, par ailleurs, une mythologie apocalyptique qui l'accompagne. C'est un régime qui recherche l'arme nucléaire explicitement, non pas pour confirmer ce que serait son statut de grande puissance régionale et qui chercherait à avoir une puissance telle pour en imposer, se défendre et tout ça, à la lumière, par exemple, de la guerre avec l'Irak, non. La recherche de l'arme nucléaire est liée directement à la volonté d'anéantir ce qu'ils appellent l'entité sioniste. Et quand on comprend ce que veut dire dans leur esprit anéantir l'entité sioniste, ça veut dire envoyer 3 ou 4 bombes, réussir à les envoyer, et c'est une logique d'extermination qui, de ce point de vue, serait une forme de parachèvement de la Shoah. C'est-à-dire que la Shoah ne trouvera son point culminant qu'avec l'élimination politique d'Israël, l'élimination des Juifs qui l'habitent, et le fait que les autres seront envoyés à la mer. Je pense qu'on doit comprendre la nature du régime iranien comme tel. Je ne dis pas, évidemment, je pense pas que tous les Iraniens pensent ça, loin de là. Je pense que ce régime, s'il se radicalise, aura cette tentation exterminationniste. Ce que disait d'ailleurs sur CNews samedi soir Georges Bensoussan, Et c'est parce que les Juifs, parce qu'Israël a une conscience claire de ce désir d'extermination qu'il se donne le droit de frapper ainsi, quelles que soient toutes les nuances qu'on ajoutera ensuite.
Et ce que disait hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense, en disant qu'Israël rendait service à tout l'Occident, justement, en menant ses frappes. Philippe Guibert.
Oui, Jean-Luc Mélenchon de 2012 était assez lucide. Et on sait très bien qu'il a un tournant qui est en 2019 autour de la manifestation contre l'islamophobie, qui a un tournant anti-occidentaliste où il fait le choix de dire les opprimés de la terre sont les musulmans, c'est notre nouveau prolétariat. Et donc, toutes ses positions se réalignent en fonction de ça, alors que c'était un laïc républicain, certes très à gauche, mais très laïc et très républicain auparavant. Donc le changement de Mélenchon porte sur tous les sujets régaliens, identitaires et même sécuritaires. De ce point de vue-là, Mélenchon n'a aucun état d'âme. C'est ça qui est fascinant, c'est que tout le monde pensait, je me souviens au PS, que c'était un homme de conviction. Or en fait, là, on a vu que ce n'était pas un homme de conviction. C'est-à-dire qu'il a compris que qu'il y avait un tournant.
C'est pas les mêmes convictions, on va dire.
Oui, mais il a compris qu'il y avait un tournant anti-occidentaliste dans toutes les gauches radicales en Europe et même en partie dans le Parti démocrate américain, et qu'il fallait prendre ce virage-là pour espérer pouvoir emmener toute la gauche et être à un deuxième tour de présidentiel. C'est ça qui est tout à fait fascinant, c'est-à-dire que la stratégie l'emporte sur la conviction.
Mais alors, moi, je nuancerai. Je pense que l'essentiel pour Jean-Luc Mélenchon consiste à être de gauche et de demeurer le plus à gauche possible. Donc, pour ça, ça implique une forme de radicalisation permanente de son discours. Si on fait une histoire de la pensée de gauche, il y a toujours une recherche. C'est la recherche de ce qu'on appelait le nouveau sujet révolutionnaire. Or, manifestement, il y a un passage à gauche. Terra Nova le disait à sa manière, qui n'était pas mélenchoniste. Terra Nova dit ce ne sont plus les ouvriers qui vont faire la révolution.
Qui a soutenu François Hollande.
Ce ne sont pas les ouvriers qui vont faire la révolution. Maintenant, ce sont les différentes minorités, les groupes issus de la société diversitaire. Mélenchon a la même lecture des faits, mais radicalise son propos, et dans son esprit, ça correspond à certaines lectures de la Révolution française. Parce que pour Mélenchon, la Révolution ne trouvera son point culminant que si elle devient universelle. Comment peut-elle devenir universelle? En se dénationalisant, en se désoccidentalisant. Comment peut-elle le faire? En embrassant pleinement ce qu'on appelle le décolonialisme aujourd'hui, le tiers-mondisme, et dans son esprit, la Révolution française à laquelle il tient, c'est son point de référence, ne peut trouver son point culminant qu'en embrassant une forme de révolution mondiale. Et c'est son imaginaire qui est porté aujourd'hui par ce tiers-monde militant auquel il adhère. Et d'ailleurs, ce qui l'amène à adouber l'image.
Cher Mathieu, pour avoir vécu tout ça de près, à un moment où j'étais très engagé en politique.
Je parle de votre jeunesse.
Non, elle n'est pas si lointaine. C'était il y a une quinzaine d'années. J'étais déjà plus très jeune.
Parce que je ne vous croyais pas si vieux.
Le Terra Nova n'avait aucune ambition révolutionnaire.
Ah, je ne suis pas d'accord.
C'est la pure ambition de Terra Nova, c'est l'aboutissement du fait qu'on va copier le Parti démocrate. Sans se dire que la société française et la République française n'a pas exactement le même... Le Parti démocrate américain, pardonnez-moi.
Ah, oui.
Et on va copier la stratégie d'un parti démocrate qui avait gagné avec Obama sur l'idée d'une coalition des minorités, en considérant qu'il y a une partie des classes populaires qui sont perdues pour la gauche. Et
ça, c'est le Terra Nova light ou zéro. C'est le Canderel du Terra Nova que vous nous faites.
Notre ami Guibert se trompe sur un point. C'est que cette logique était présente déjà à la fin des années 90 dans la Third Wheel Intelligence.
Olivier Ferrand était un Strauss-Kahnien. Olivier Ferrand, qui est le rédacteur du rapport Terra Nova, était un Strauss-Kahnien. C'est-à-dire, c'est un
mais
parfait social. Ah, il était le principal rédacteur, je peux vous dire. C'était vraiment. Ça a été tellement personnel, d'ailleurs, qu'il y a eu un débat.
Philippe Guibert est victime de franco-centrisme ici.
Non,
le fait est que le Terra Novisme, c'est le point extrême d'une mutation qui a lieu dès les années 90, qu'on voit en Grande-Bretagne chez Tony Blair et Anthony Guédonis, qui est son penseur, avec Ulrich Beck et Gerhard Schröder en Allemagne.
Et Star Campbell.
Oui, oui, en
fait. Mais la source d'inspiration,
j'entends par là, chez ces gens, il y a cette idée qu'une forme de trotskisme qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire la révolution, avec son grand soir, n'est plus possible, mais on va avoir un réformisme.
Ça a été révolutionnaire, Olivier.
Ça va être un réformisme permanent. On ne met plus l'accent sur l'économie, mais c'est la révolution par la diversité. Et chez Mélenchon, c'est l'expression extrême.
Mais laissez-le parler, le pauvre Guibert.
Non, mais il parlait sans arrêt, il fallait le corriger. Une faute après l'autre.
Là, vous faites une erreur d'interprétation totale sur Terra Nova et sur Jean-Luc Mélenchon. En fait, il revient à son troxisme de jeunesse, lui. Et donc, il a sa parenthèse, si j'ose dire, républicaine, laïque, il la tourne parce qu'il pense effectivement que l'immigration, et notamment l'immigration musulmane, est le nouveau sujet révolutionnaire. Là, je vous rejoins. Mais le pauvre Olivier Ferrand, qui est décédé peu d'années après, n'avait rien
de révolutionnaire. Il n'était pas seul dans Terra Nova. Moi, j'ai lu plein d'articles de Terra Nova.
C'était des gens très deuxième gauche, mais... très centre-gauche.
Notre ami Guibert croit que la révolution vient nécessairement avec
parce qu'ici, on n'est pas à la télévision, donc on vous... Imaginez.
Alors, je vais répondre à Guibert.
Mettez-vous à la place de celui qui écoute sur un petit poste de radio en train de faire cuire ses pâtes. Là, je vous assure qu'on n'entend rien du tout.
Donc, Guibert ne doit rien dire, il doit m'écouter. Donc...
C'est une activité à temps complet. Vous écoutez.
J'en suis très heureux, ça va vous instruire. Alors, de manière plus sérieuse, je dis qu'il y a une erreur à gauche qui consiste à croire que la révolution ne prend que la forme de la prise du palais d'hiver, la révolution, le grand moment incandescent. Or, une bonne étude de l'histoire des pensées de gauche depuis 50 ans, c'est de voir que certains se sont dit que la révolution finalement sera permanente. Ce sera une forme de transformation radicale permanente dans les paramètres de la démocratie libérale, mais à terme, la société sera complètement transformé, donc révolutionné. Et je pense que de ce point de vue, et on l'a vu au moment des dernières législatives, il y avait néanmoins la capacité de travailler ensemble entre l'extrême centre et la gauche radicale, parce qu'ils ont le même imaginaire, même s'ils n'ont pas le même rythme et les mêmes méthodes.
Olivier Ferrand et Terra Nova est sur un imaginaire politique qui est celui de la démocratie libérale à l'anglo-saxonne multiculturelle. Sujet que vous connaissez particulièrement bien. Et donc tous ces braves gens viennent de la CFDT, viennent de la deuxième gauche rotarienne.
La deuxième gauche, c'était beaucoup plus radical qu'on l'a dit. Ça, je pense que vous l'oubliez.
En 70, oui, mais en 90.
Prenez le parcours de Pierre Rosanvallon aujourd'hui, c'est assez intéressant. Le grand intellectuel, oui, tout moins présenté comme tel.
Fondation Saint-Simon.
On peut partir sur des bases démocrates et ensuite il peut y avoir des dérives des uns et des autres. Mais Ferrand n'était pas le seul de rédacteur de Terra Nova.
C'est la méthode de l'ami Guibert pour
on a fait le tour, de toute façon, on ne sera pas d'accord. Non, on ne sera pas d'accord. Vous voulez que je fasse du Pascal ? On ne sera pas d'accord, Philippe Guibert. Mais je voudrais qu'on revienne sur Mélenchon et sur les rapports intrinsèques qu'il a avec Jérôme Guedj, puisque c'est une vieille histoire, Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon. Et cette fois-ci, il en a eu assez, le député PS de l'Essonne. Il s'est exprimé lors d'un congrès socialiste ce week-end à Nancy. On écoute.
Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière. Je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celui de la solution à deux États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, et que j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément, qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables.
Réponse sur BFM TV de Emmanuel Bompard.
J'appelle solennellement, au nom de la France Insoumise, Olivier Faure, à présenter des excuses publiques à la France Insoumise, à l'ensemble de ses militantes et de ses militants qui sont attaqués de manière inacceptable à l'intérieur du Congrès socialiste. Comment vous voulez imaginer qu'il soit possible de travailler en commun avec une formation politique qui, dans son congrès, insulte le dirigeant ou un dirigeant politique d'une autre formation politique de salopard? C'est totalement impossible.
La question est simple, Philippe Guibert. Est-ce que Jérôme Guedj a eu raison d'aller aussi loin dans la sémantique?
Il a voulu marquer le congrès du PS et que le congrès du PS se fasse sur cette question-là que Olivier Faure cherchait à tout prix à glisser sous le tapis. Et donc, comme dans la nuit, la
l'alliance synthèse... avec LFI.
Ouais, exactement. Ouais. Dans la nuit, la motion de synthèse dans le jargon socialiste échoue justement sur cette question-là. Et donc, Guedj met les pieds dans le plat pour prendre date pour la suite en disant on ne pourra pas accepter une alliance avec LFI, y compris pour des municipales, y compris pour des législatives. Voilà. Et Olivier Faure est sur une stratégie inverse. C'est-à-dire qu'il a dit, sur la présidentielle, on ne va pas aller avec Mélenchon, mais sur les municipales et une éventuelle législative en cas de dissolution.
Donc il joue le flou.
Ah, c'est plus que le flou. C'est-à-dire qu'en fait, il avoue qu'il refera alliance avec LFI, Olivier Faure.
D'accord.
Donc, Guedj a voulu vraiment tout casser cette image du
Mathieu Bocoté.
Oui, ensuite, je pense qu'il y a une forme de Jérôme Guedj, qui est un homme de qualité, dans les circonstances, décide de capter la lumière à tout prix, quitte à utiliser des formules qui, me semble-t-il, ne relèvent pas... le mot antisémite, à la rigueur, c'est le document, mais salopard, tout ça. Je pense qu'en politique, aujourd'hui, parce que c'est vraiment des réserves, c'est ma part centriste que je vous cachais jusqu'à présent, je pense qu'il faudrait quand même éviter de se traiter mutuellement de salopard, d'arnaqueur, de chien, de bandit, de ci, de ça. Or, bon, c'est un coup de gueule. Ça a pour vocation de rendre irréconciliable le PS et LFI. Par ailleurs, le PS est plutôt aujourd'hui la version gauche et la version complètement minoritaire de ce qu'est la gauche aujourd'hui. Je veux dire, LFI s'entend parfaitement avec les écolos radicaux.
Le résultat du congrès du PS l'a montré. Hein.
Donc, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent correctement avec les communistes qu'on fait semblant de traiter, de voir comme des modérés alors qu'ils sont quand même communistes. C'est quand même pas un détail. Et le Parti Socialiste, globalement, veut s'entendre avec la coalition de gauche. Donc, Gage est le témoin d'une ancienne gauche. Il y a je crois qu'il a le destin. Il va se faire Manuel Valcisé en quelque sorte. Et il sera traité comme un fréquentable et irrécupérable dans les rangs de sa formation historique.
Je rejoins Mathieu, c'est-à-dire je pense que la moitié du PS qui n'a pas voté pour Olivier Faure devra en tirer les conséquences et partir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit salopard antisémite, je suis d'accord avec vous sur la... On peut éviter salopard, mais il l'a fait exprès. Il l'a fait volontairement.
Parce qu'on repassera le sonore dans 10 ans.
Exactement.
Et dans 20 ans.
Et donc la suite logique maintenant, c'est de reconstruire quelque chose d'autre en dehors du PS. Le problème est de savoir s'ils ont le courage de dire un certain nombre de choses à une tribune de congrès. Est-ce qu'ils ont le courage d'y aller jusqu'à des élections? C'est là la vraie question.
Si je peux me permettre à la fin, la dernière fois, en 2024, je laisse de côté Gage et encore, ils se sont tous entendus. C'est le génie de la gauche. Ils se traitent de tous les noms entre eux. On soupçonne LFI.
Gage n'a refusé.
C'est pour ça que je dis que je le laisse de côté. Mais globalement, les LFI se faisaient traiter d'antisémites régulièrement par les gens du PS régulièrement, et quand ils ont eu le temps de s'entendre au nom de, contre une extrême droite fantasmée, ben ils sont tous capables de s'entendre. Le mot gauche a une puissance de fédération qui va au-delà des convictions les uns les autres.
Contre l'extrême droite.
Merci
Merci
Mathieu Boccoté. 20h45, l'information. Et juste après, on accueille Julien Pichenet pour la grande famille Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
Maël Hassani.
Nous changeons la face du Moyen-Orient. Les mots de Benjamin Netanyahou à la télévision ce soir. Au quatrième jour de la guerre entre l'État hébreu et l'Iran, le premier ministre israélien assure que son armée est en train d'éliminer un par un les membres du haut commandement militaire iranien et n'exclut pas de tuer le guide suprême Ali Khamenei. Depuis le Canada où se déroule le sommet du G7, le président américain Donald Trump appelle Téhéran à négocier avant qu'il ne soit trop tard. La capitale iranienne touchée par de nouvelles frappes aujourd'hui, notamment sur le bâtiment de la télévision d'État. Une présentatrice contrainte de fuir son plateau sous une pluie de débris en plein direct. L'Iran condamne un acte ignoble et un crime de guerre. Après avoir qualifié Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, Jérôme Guedj dit regretter avoir utilisé le terme salopard, mais maintient qu'il considère comme antisémite le leader insoumis. Le député PS, auteur d'une violente diatribe ce week-end lors du congrès de son parti, LFI réclame toujours des excuses. Une prime pour les salariés seniors qui décident de rester au travail, idée avancée par le Premier ministre François Bayrou à la veille de la dernière réunion du conclave sur les retraites. Pour le moment, aucun consensus ne semble se dégager entre partenaires sociaux pour améliorer la réforme de 2023. Et puis des centaines de pompiers réunis à Laon dans l'Aisne en début d'après-midi pour un hommage national aux deux pompiers volontaires tués dans l'effondrement d'un immeuble ravagé par les flammes la semaine dernière. Les deux soldats du feu récompensés par la Légion d'honneur à titre posthume. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau loue le courage et le civisme engagé des deux victimes.
Merci Maël Hassani.
Europe 1 soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
20h46, à l'occasion de la semaine de la grande famille Europe 1, tout le monde se mélange. Vous l'entendez, celui que je reçois ce soir habituellement le matin dans Culture Média, 9h50, le journal des médias, et sans doute aussi incarner certains de nos podcasts. Bonsoir Julien Pichenet.
Bonsoir Pierre, je suis un peu perdu, hein, je suis rarement là à cette heure-ci.
Hein, mais je suis désolé, je vous déphase complètement dans votre agenda.
On croit à une grande fête des voisins, une grande cousinade, c'est assez sympa. Ouais.
C'est ce qui va se passer justement cette semaine. Nous, on est content de vous avoir dans la grande famille Europe 1 depuis 4 ans. Alors, effectivement, on parle de podcast. Alors, ce n'est pas une rédaction parallèle, c'est un complément et comment dirais-je, une façon de faire sur la longueur ce qu'on n'arrive pas à faire sur l'antenne. Les podcasts Europe 1, c'est quoi et ça marche comment?
Effectivement, c'est une sorte de prolongation parce qu'on n'a pas la place pour tous ces documents, pour tous ces programmes. Il y a parmi les podcasts Europe 1, c'est une offre extrêmement riche et variée, il y a évidemment tous les replays de l'antenne. On peut réécouter toutes les émissions qui passent du matin au soir à l'antenne. On peut réécouter Pierre de Villeneuve en podcast, on peut réécouter Stéphane Bern, on peut écouter Cyril Hanouna, on peut écouter Christophe Ondelat, mais il y a aussi une offre parmi les offres podcast qu'on qu'on trouve pas à l'antenne, parce qu'il y a pas de place pour autant de programmes. C'est des centaines d'heures de programmes chaque mois. Donc, évidemment, tout ne tient pas. Mais il y a ce qu'on appelle des podcasts natifs, des podcasts donc qui ne sont pas
sur la grille d'antenne. Donc, on a des idées, notamment sur. Et là, on va plonger dans l'histoire de France. On s'appuie sur les archives.
Exactement. On s'appuie beaucoup sur les archives d'Europe 1 qui nous servent énormément. Mais donc, il y a des podcasts histoire, des podcasts sur l'actualité. On propose des documentaires pour prolonger certains dossiers d'actualité.
Sur l'automobile, par exemple.
Sur l'automobile, vous en avez fait d'ailleurs un tour roule. Hein,
ça a bien marché d'ailleurs. Les grands succès de l'année cette année.
Bien sûr, il y a les replays de l'antenne, Christophe Ondelatte, Virginie Giraud, cœur de l'histoire. C'est des millions et des millions d'écoutes chaque mois. Mais il y a aussi, il faut noter le succès de certains programmes qui n'existent qu'en podcast et qui ne sont pas passés à l'antenne. Je pense à Au cœur de l'actu, qui est une catégorie de podcast qu'on a lancé en octobre dernier. Ça a très bien marché cette année, notamment ce qu'on a fait autour des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo avec Philippe Val, qui nous a fait l'honneur d'incarner ce podcast. Philippe Val, ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, qui nous racontait Charlie Hebdo de l'intérieur, lui qui a vécu évidemment cette attaque de l'intérieur. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
Le 7 janvier 2015, armée de Kalachnikov, ces terroristes fanatiques ont assassiné des journalistes, des dessinateurs, des caricaturistes avec une violence inouïe pour des dessins. Des dessins.
C'est la particularité des podcasts, Pierre, c'est qu'on peut prendre le temps, hein, ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, un podcast. On n'a pas de contrainte de temps, et ça, c'est assez,
c'est
assez jouissif, effectivement. Et puis, on peut ressortir aussi, bah, effectivement, des pépites de nos archives, ce qui a cartonné, ce qui cartonne vraiment. Et ça, c'est bien, parce que c'est vraiment le savoir-faire d'Europe 1 depuis des décennies et des décennies, depuis 60 ans exactement. Ce sont les feuilletons policiers, les récits policiers, les polars. Alors, on a Christophe Ondelatte, hein, qui n'est pas loin de ça tous les jours à l'antenne. Il y a Pierre Bellemare qui a été un succès.
Les histoires extraordinaires.
Gigantesques, mais il y a aussi Serge Sauvion, ça vous parle. C'est un acteur des années 60, 70, 80 qui était surtout connu pour sa voix, parce que c'est lui qui doublait Columbo.
Ah, je sais.
Ouais. Et on le retrouve toutes les semaines en podcast, 2 fois par semaine, avec Au cœur du crime. Écoutez cette voix extraordinaire.
Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire.
Voilà, une voix qui nous transporte, hein, une des plus grandes voix.
Et là, t'as envie de dire pas du tout, tu t'appelles Peter Fall.
Exactement, mais alors ça cartonne, ça, c'est, on est ravis de voir, parce qu'on a exhumé cette série en fin d'année dernière, on est ravis de voir que ça plaît vraiment à nos auditeurs, qui sont des millions à télécharger ces épisodes chaque mois.
Et puis il y a Fernand Reynaud aussi.
Et il y a Fernand Reynaud, alors ça... évidemment, il y a les archives d'Europe 1 qu'on ressort. Vous savez, les archives d'Europe 1, c'est un
puits trésor.
C'est un puits sans fond. Parce qu'on découvre chaque semaine, chaque mois, on découvre des choses dont on ignorait l'existence. Et Europe 1 a eu 70 ans en début d'année. À cette occasion, on a numérisé beaucoup, beaucoup d'archives.
De galettes. Il faut expliquer quand même ce que c'est qu'une galette. C'est-à-dire
des grands bobineaux.
Ça fait la taille d'une roue de voiture.
Exactement.
Dans des boîtes en ferraille. Et puis, il y a donc une bande qui s'enroule autour d'un moyeu. Et c'est ça. J'explique quand même de manière candide, parce que c'est... Alors, on a appris à monter sur des nagras, mais alors aujourd'hui...
Exactement, mais on a encore beaucoup de documents sonores qui sont à l'état d'origine, c'est-à-dire sur des bobineaux, mais on les numérise. Ça fait des années qu'il y a une équipe formidable pilotée par Sylvain Denis qui numérise tout ça, mais on a numérisé que 20% de nos archives.
Donc on a
pour l'instant 200 000 documents numérisés et on a numérisé 20%. Faites le calcul, on est à plus d'un million de documents qui sont encore dans la cave, donc il y a encore du boulot pour plusieurs années. Et on découvre parfois des pépites. Et à l'occasion des 70 ans d'Europe 1, on a découvert pas mal de pépites. Je vous ai ramené avec moi sous le bras l'une d'elles que j'ai préférée. C'est le jeu des gages. C'était un jeu qui était à cette heure-ci, Pierre, hein, à votre place, dans les années 60, avec un concept très simple. Il y avait un animateur qui posait des questions gênantes, et si l'artiste qui était invité ne voulait pas répondre, bah, il avait un gage. Et Fernand Reynaud a pas voulu répondre à une question très embarrassante. Citez un humoriste que vous trouvez moins drôle que vous. Il a dit non, je peux pas dire ça. Eh bien, le gage, c'était de sauter dans la Seine. Et Fernand Reynaud a nagé dans la Seine, bien avant Anne Hidalgo,
pour en repas.
Et Fernand vient pour l'instant de s'enfoncer sous l'eau. Je m'approche de la barque. Et il est dans l'eau de la Seine. Je ne sais pas jusqu'où il ira. Tes impressions, Fernand ?
L'eau est dégueulasse. Bah bon, salaud.
L'eau est dégueulasse. Ça, ça fait partie des pépites. C'est extraordinaire parce qu'Europe 1, c'est évidemment des tas de d'émissions comme ça qui ont marqué les Français, les auditeurs, et puis des émissions très, très, très audacieuses parce qu'il fallait quand même le faire. Hein. Et Fernand Reynaud a accepté pour Europe 1 de nager dans la Seine. C'est complètement fou. Tout ça, on peut le réécouter en podcast en intégralité, hein, ces émissions, bien sûr. Et sinon, il y a eu le succès de Destin Extraordinaire. Ça, c'est une série qu'on a lancée aussi en fin d'année dernière avec des grandes voix d'Europe 1 qui racontent la vie et l'œuvre d'une légende. On a Isabelle Morizet qui nous a raconté Brigitte Bardot, Michel Drucker qui s'est raconté lui-même, Joe Hume qui nous a raconté il n'y a pas longtemps
Drucker
la vie
de Michel Panaret. Il va venir dans Europe 1 ce soir, dans pas très longtemps.
Il se raconte très très bien. Et puis Pascal Praud qui racontait la vie d'Alain Delon. C'est un podcast que nous avons pu sortir au moment de la disparition de cette légende et qui a été notre plus grand succès de l'année.
Moi, j'ai jamais été un bon élève. J'ai toujours été même un très mauvais élève.
T'en avais fait beaucoup, des cours, ouais.
J'en avais fait à peu près une douzaine, oui. J'avais été renvoyé dans le style pisser dans les encriers, jeter les boules puantes, etc.
T'étais quand même un dur, hein. Non,
j'étais un dur parce que j'étais un solitaire.
Ce qui est formidable, c'est que dans nos archives, on a des confessions comme ça, des interviews vraiment incroyables. Delon qui se confie à Jean-Claude Brialy, son ami. Ça, c'est vraiment un document fabuleux que nous avons.
Qu'est-ce qu'on a pour la saison prochaine, pardon ?
Eh bien, je peux déjà vous dire, Pierre, un petit peu en exclusivité, qu'à la rentrée, on va ressortir un feuilleton mythique d'Europe 1. Ça a été le premier grand succès des feuilletons d'Europe 1, signé Furax.
Ah, j'adorais ça.
Voilà. Francis Blanche.
Il y a même eu un film.
Pierre Dac. Ouais. Exactement. Mmh. Ça a été adapté au cinéma 30 ans plus tard. Mais c'est extraordinaire parce que c'est complètement loufoque, c'est complètement dingue, c'est complètement libre. Écoutez, Francis Blanche et Pierre Dac.
Le moment est venu.
Il est là, le moment de compter à nouveau au monde incrédule les hallucinants faits et gestes du plus grand aventurier de notre temps.
Celui dont le nom fait encore trembler les lèvres de ceux qui l'ont approché. Furax.
Ça, ce sera notre grand événement de la rentrée, parce que signé Furax, ça a cartonné pendant 4 ans, Pierre. Les Français s'arrêtaient, mais des millions de Français écoutaient ça tous les jours à 13h10, et les Français s'arrêtaient de vivre. On raconte que le président du Conseil, en 56, Guy Mollet, avait abrégé une conférence de presse, et il avait dit aux journalistes...
Je suis désolé, j'ai Furax.
Exact. Hein. C'est fou d'imaginer ça. Aujourd'hui, ça ferait polémique, hein, évidemment, mais voilà, ça...
Ah, mais
ça
vous montre savez, on en a d'autres des polémiques, mais celle-ci, au moins, elle était marrante.
Ah, elle était rigolote. Donc, on va ressortir, pour la première fois depuis l'époque, l'intégralité de la saison 1 de Furax.
Formidable, merci beaucoup Julien Pichenet. Et puis à demain, bien sûr, dans Culture Média, 9h50, bah, c'est ça
avec toute l'équipe, avec Thomas Hill, avec Anissa Haddadi. Ouais, 9h50, le journal des médias. Actualité chargée en ce moment, côté médias, avec le Mercato qui n'est pas terminé, loin de là.
Bien sûr, 20h55 sur Europe 1.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Les enfants d'Europe 1.
Bonsoir Laure d'Autriche.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Le 16 juin 1961, le danseur étoile russe Rudolf Nureyev arrivait à Paris, demandait l'asile en France. Nureyev est un mythe dans le monde de la danse, considéré comme le plus grand danseur classique du XXe siècle.
Oui, c'est l'histoire d'un gamin pauvre, né dans le transsibérien, un garçon déterminé à atteindre la gloire, qui a commencé la danse classique à 17 ans et est devenu danseur étoile à 21 ans. Un forcené dans le travail, comme le raconte en 1974 sur Europe 1, Noëlla Pontois, danseuse étoile.
Il est très scrupuleux de son métier, il le fait très à fond. Il ne veut pas que les autres se permettent de ne pas faire leur métier à fond. Donc, s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas parce qu'il trouve que ce n'est pas professionnel, il réagit brutalement.
L'événement politique de sa vie a lieu en 61. L'artiste russe passe à l'Ouest lors d'une tournée à Paris. Il demande l'asile politique. Le KGB le surveille pour qu'il retourne à Moscou, mais il se réfugie auprès de policiers français. Scène racontée par Pierre Lacote, ami de Nureyev, qui était sur place avec lui.
Il s'est précipité sur moi et il m'a dit « Aide-moi, aide-moi, sinon je me tue ». Et il a sorti un coup de papier qu'il avait volé. Il est devenu livide. Et lui savait que s'il retournait en Russie, jamais plus il ne reviendrait en Occident.
Et à partir de ce moment-là, Nureyev est protégé par la France. Il est considéré comme un traître dans son pays. Il n'y retournera qu'en 1989. En 61, en pleine guerre froide, tous les journaux parlent du passage à l'Ouest de cette star de 23 ans. Nureyev, lui, poursuit sa carrière en Occident. En 83, il devient directeur de la danse à l'Opéra de Paris et s'exprime en français sur Europe 1.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à un jeune qui débute ? Est-ce que vous lui diriez il faut rester dans une troupe ou il faut partir ?
Il faut d'abord ouvrir les yeux, les oreilles, absorber tout ce qui est possible. Pour moi, qui m'a aidé beaucoup, qui j'ai voyagé, qui j'ai vu beaucoup de compagnies, travaillé avec beaucoup de chorégraphes, ça a ouvert les yeux, les oreilles et les âmes.
Rudolf Nureyev meurt 10 ans plus tard, en 93. « Mon pays, disait-il sur Europe 1, c'est le théâtre et sa nationalité, la danse. »
Merci Laure d'Autriche, François Desmoulins à la réalisation et Sylvaine Denis bien sûr pour les archives. La météo en un mot, Marlène, ensoleillée.
Oui, du soleil pour tout le monde, ou presque. Quelques nuages pour la déco en journée du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nuages qui pourraient d'ailleurs donner une petite averse en montagne. Au nord de la Seine aussi, quelques nuages de beau temps. Un peu de grisaille très locale en bordure du Manche. Et puis on va s'arrêter là, de la chaleur modérée avec 25 à 33 degrés en général, un petit peu moins près des côtes de la Manche où il fera autour de 21 ou 22 degrés.
Et le temps estival, il va se poursuivre toute la semaine chouette.
Oui, avec des températures de plus en plus élevées au fil des jours, si bien qu'une vague de chaleur est envisagée. De violents orages aussi pourraient à nouveau mettre un terme à ces très fortes chaleurs du week-end prochain. Bon, encore beaucoup d'incertitudes à ce stade, mais très probable de renouer effectivement avec ces très fortes chaleurs de la semaine dernière. Peut-être même envisager une canicule, nous verrons bien.
Merci beaucoup Marlène Duret. Demain, même endroit, même heure, 19h pour Europe 1 Soir. La matinale demain, bien sûr, avec Monsieur Pavlenko. Rachida Dati sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview CNews Europe 1 à 8h10. Et Monsieur Hassani est là pour vous informer jusqu'à minuit sur Europe numéro 1. C'est la France Bouge maintenant qui arrive à toute vitesse. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Pierre. Ce soir, on va aller voir ce qui se passe du côté de la filière équestre. Au lendemain du Grand Prix de Diane, je reçois le patron du groupe Equia Sport. C'est un équipementier pour les cavaliers, mais aussi pour les chevaux, mais et des start-up comme chaque soir sur Europe 1. Ce sera juste après le point sur l'info. À tout à l'heure.
Bonne émission.
Merci d'écouter Europe 1, il est 21h. Le point sur l'info avec